toi est libre. Au FM 93, voici Luc Lavoie.
Allô, Luc, comment vas-tu?
Allô, hein? Myriam. Tu m'as pris par surprise, là, tu vois.
Ah oui, hein?
Mais je suis toujours content de te parler. On est 5 minutes avant notre temps.
Ça arrive. Faut dire que ça a brassé un peu à la station de notre côté. Tu veux?
Qu'est-ce qui est arrivé?
Catherine Dorion a posé un lapin hier à Éric Duhaime.
Ouais.
Et vient de perdre sa chronique qu'elle avait avec Sylvain Bouchard le jeudi matin parce que elle se réjouit notamment dans la vidéo qu'elle a publiée que Éric a dû pédaler dans le vide pendant une demi-heure.
Ça n'a pas brassé beaucoup, c'est des brassettes, ça.
Je te dirais qu'il y a de la houle. Vu de Montréal, c'est peut-être une vaguelette, là, mais de notre côté, il y a de la houle.
Ouais, je connais bien Éric. Il sait quoi faire avec de la houle.
Luc, je voulais que tu me parles de ce que Éric appelle le Rebold Crash Tice.
C'est vrai que c'est une bonne façon de qualifier ça.
Écoute, c'est incroyable. Cette fille-là, cette femme-là, là, elle invoque la tradition autochtone pour avoir enregistré Michael Werwick.
Parce que la tradition autochtone, selon elle, consiste à dire sa vérité. Mm. Mon Dieu Seigneur, elle est complètement sautée. Elle, ça n'a pas de bon sens.
Mais là, ce qui est drôle, c'est que Justin Trudeau a pas l'air d'être capable de la mettre dehors. Puis je sais pas pourquoi. As-tu une bombe atomique différente encore? Est-ce qu'elle a encore des bombes dans sa besace?
Oui, mais le problème, c'est que la réponse à cette question, qui est tout à fait légitime, on la connaît pas. Mais l'impression qu'on a, généralement parlant, c'est que Trudeau a peur. Oui. C'est que franchement, là, il y a pas de... Comment dire? Appartenir au caucus de ton parti, c'est un privilège donné par le chef. Le chef la sacre dehors, c'est fini. Là. Il aurait pu la sacrer dehors il y a pas mal longtemps, là, plusieurs semaines. Et pendant ce temps-là, elle continue d'aller au caucus libéral et de sévir. Et moi, je dois dire que, ayant travaillé dans ces sphères-là à Ottawa, en montant, l'enregistrement d'une conversation entre le ministre de la Justice et le premier fonctionnaire de l'État... sans que le premier fonctionnaire de l'État en soit au courant, et le fait de rendre ça public, ouais. Ça m'a jeté par terre. C'est invraisemblable. C'est le summum du manque de loyauté, c'est le summum de la trahison, c'est incroyable. Incroyable.
D'un autre côté, elle vient de nous prouver qu'elle dit la vérité quand elle dit qu'elle a été la cible de pressions indues.
Non, pas non? du tout. Pas du tout. Absolument
tu
pas.
Tu trouves pas ça indu que le fonctionnaire numéro un de l'État l'appelle pour lui dire « Regarde, le premier ministre veut vraiment que ça se fasse. Organise-toi pour que ça se fasse. »
Ben, absolument. Je trouve ça bien normal, moi. C'est parce que les gens mélangent toutes sortes d'affaires. Le procureur général, c'est ultimement la personne indépendante qui décide si elle porte ou pas des accusations. Mais le gouvernement demeure un gouvernement souverain qui est appuyé sur une majorité à la Chambre des communes et qui dit « Je veux utiliser les accords de réparation comme ça se fait... » En Angleterre, aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout, en Espagne, absolument partout. Et ces accords de réparation-là, quand on y regarde de plus près, c'est simple, c'est mieux pour l'État puis c'est mieux pour tout le monde. Parce que, si je me souviens bien, les cas semblables ailleurs dans le monde où ça a procédé, ça a été à procès, le plus que l'État a jamais récupéré en amende, c'est 29 millions.
Oui.
Or, dans le cas de Siemens, un accord de réparation, ils ont été chercher 1 milliard. En d'autres mots, ici, si tu prends la tradition judiciaire canadienne, on procède, on va de l'avant avec SNC-Lavalin, on prouve qu'on a raison, ils sont déclarés coupables, puis ils vont être condamnés à 35 millions d'amende. Or, on sait que ce qu'ils offraient pour un accord de réparation, c'était 250 à 300.
Ouais.
De 250 à 300. Alors, c'est certainement pas pour leur faire plaisir. Deuxièmement, c'est clair que s'il n'y a pas d'accord de réparation, ils vont sacrer leur camp. Et troisièmement, les gens qui dirigent SNC-Lavalin, présentement, n'ont rien à voir avec ce qui est arrivé il y a 10 ans. Rien, parce qu'ils ont tous changé.
D'ailleurs, ils menacent actuellement de déménager le siège social de SNC-Lavalin aux États-Unis.
Oui. En réalité, ce qui se passe, c'est pire que ça, Myriam, c'est qu'ils ont commencé à déménager le siège social mondial à Londres. Il y a 3 semaines ou 2 semaines, ils inauguraient un édifice fantastique à Londres. Et les fonctions au siège social de type mondial sont en train d'être, sont presque toutes parties du Québec. Et là, ils menacent en plus de dire si vous n'allez pas avec un accord de réparation, le siège social nord-américain va déménager lui aussi. Et là, à un moment donné, tu dis, ben, c'est pas vrai là, qu'il y a eu de l'influence indue. Il n'y a personne qui a dit, écoute, Jody, nous autres, on aime bien SNC, tu sais, puis ils ont participé à notre caisse électorale. Il n'y a pas question de ça. Il y a zéro corruption impliquée. Le gouvernement a dit, moi, je veux plus d'argent, puis je veux tenir bien comme il faut que ça n'arrive plus jamais. C'est ça que l'accord de réparation permet. Puis une supervision judiciaire, puis 10 ans sous surveillance, et patati et patata. Puis là, le gouvernement dit ça. Ça, c'est une décision de politique publique. C'est une décision du gouvernement du Canada qui est parfaitement légitime d'agir ainsi.
Ouais, mais pourquoi ils ont nommé Jody Wilson-Raybould à justice?
Ben d'abord, parce qu'ils ne savaient pas qu'elle allait avoir une attitude comme celle qu'elle a eue. Puis deuxièmement, tu sais, on ne vit pas dans la fiction ici. T'sais. La séparation du pouvoir judiciaire, puis du pouvoir législatif, puis du pouvoir exécutif, c'est vrai. En fait, on le vit au quotidien. Mais c'est pas vrai que le ministre de la Justice, qui fait partie du Conseil des ministres et du caucus, devient, au moment de sa nomination, sourd, muette et aveugle. Voyons donc!
Pourquoi Warwick a démissionné s'il n'y a rien à se reprocher?
Pourquoi?
Pourquoi Warwick a démissionné, le fonctionnaire numéro un, là? Pourquoi il a démissionné s'il n'y a rien à se reprocher?
Parce qu'il avait commis une très grave erreur. C'est quand il a témoigné la première fois, il était trop loin. Il s'est laissé aller par ses émotions, puis il a fait des déclarations. Pas qu'ils sont répréhensibles ou qu'ils sont contraires à l'éthique. Simplement, un greffier du conseil privé doit être au-dessus de la mêlée. Je ne connais pas M. Warwick. Moi, je me souviens pas de lui quand j'étais à Ottawa, là, mais il a eu une carrière assez impressionnante dans la fonction publique. Le moment où il a cessé d'être ce refuge de non-partisanerie à cause de son témoignage, il a compris, puis je pense pas qu'ils l'ont sacré dehors en passant, il a compris, de toute façon, il était proche de l'âge de la retraite, que ça y tentait pas de continuer dans ça parce qu'il allait se faire remettre le nez dans ça sans arrêt. Alors, c'est pour ça qu'il a démissionné. Maintenant, la gestion que Trudeau fait de cette situation-là, ça n'a aucun sens. C'est dans la nature humaine que de chercher un chef. On cherche un chef. Quand on traverse des difficultés, y a-t-il quelqu'un qui va nous aider, qui va nous dire par où aller? Il n'y en a pas de chef. Ça n'a pas de bon sens, ce que Trudeau fait. J'avoue que je suis décontenancé de mon
cœur. Détrompe-moi, là, mais ce que je décode de ce que j'ai vu depuis 24 heures, c'est que là, tous les libéraux notoires sortent publiquement pour dire « ça commence à pas être endurable, il va falloir la chasser ». Puis que ce qui risque d'arriver, c'est que Trudeau va dire à son caucus « pensez-vous que je devrais la chasser? » Puis il va dire « ah, ben c'est le caucus qui a décidé de la chasser ».
Mais c'est en plein ça qui est en train de se dessiner. C'est ça que je comprends pas, Myriam. T'as mis en plein le doigt dessus. C'est quoi le leader? C'est qui le chef ici? Le premier ministre, par définition, dans le système parlementaire britannique, a une énorme concentration de pouvoir entre les mains. Évidemment, son devoir, c'est de l'utiliser parcimonieusement. Mais dans un cas comme celui-là, il y a quelqu'un qui est en train de saboter son gouvernement de l'intérieur. Il fait rien. Et ça, à l'heure actuelle, je sais qu'il y a un caucus spécial à 12h30 des députés de l'Ontario pour discuter spécifiquement de ça. Le cas du caucus du Québec est réglé pas mal. Là. Ils ont dit, nous autres, on veut plus avoir, comprends-tu? On veut même pas être dans la même salle qu'elle. On sait pas quel coup bas va nous faire. Alors là, caucus à région, parce que à Ottawa, les caucus se réunissent de façon régulière sur une base hebdomadaire le mercredi matin. Et le mardi, c'est le Conseil des ministres et des caucus régionaux. Là, les caucus régionaux sont en train de faire le tour, là, puis ils vont dire à Wilson-Raybould puis à Philpott, sacrez votre camp. Et moi, je pense que Mme Wilson-Raybould, quand elle a rendu public l'enregistrement d'une conversation privée, au cours de laquelle, en passant, Warwick a été très poli avec elle, il a juste dit, le premier ministre, il veut que ça arrive, ça va arriver. Ouais. C'est normal. Écoute, c'est une décision de politique publique.
Sauf
c'est
qu'ils ont changé le ministre de la Justice, puis ça arrive pas pareil.
Ah ben non, mais là, on est pris dans un imbroglio on sait plus comment s'en sortir. Et là-dessus, t'as raison. On a un nouveau ministre de la Justice et il m'apparaît quelqu'un qui serait plus ouvert. Mais comment il va manœuvrer Trudeau pour mener ça à bon port? Moi, je pense qu'on est mieux de se mettre dans la tête « Goodbye SNC-Lavalin ». On s'en mordra les doigts pas mal longtemps. Ça a pris 60 ans, puis la construction des barrages de la baie James, puis de la rivière Manicouagan et les autoroutes du Québec pour que cette entreprise-là prenne l'envergure qu'elle a prise et qu'elle puisse l'exporter. À un moment donné, elle est tombée dans le panneau de graisser des pattes dans ses contrats à l'étranger, mais là, je voudrais pas te... Hein? J'ai voyagé beaucoup à l'étranger dans divers projets. À l'étranger, bah, des contrats, c'est de même, ça marche. Est-ce acceptable? Non. On a des lois qui disent non. Mais ça excuse rien. Il n'y avait pas d'affaire à faire ce qu'ils ont fait, surtout pas avec un dictateur sanguinaire et capoté comme Muammar Kadhafi. Maintenant, les gens qui ont fait ça sont plus là. Il y en a même un qui est en prison. Il y en a d'autres qui sont en attente de procès. Toute la direction a changé. Tout le conseil d'administration a changé. Un code de déontologie parmi les plus contraignant que j'ai jamais vu a été adopté par le conseil d'administration de SNC-Lavalin. Ils ne font plus un pas de travers sans avoir trois conseillers juridiques qui leur disent « va pas là, va pas là, va pas là ». Puis nous autres, on décide, parce qu'un Wilson Raybould s'appuie sur des traditions autochtones qu'elle vient d'inventer, d'après moi, là, elle a décidé, elle, que la politique publique, non, c'est moi qui décide. Ben, madame, elle décide plus, puis sacrez-la dehors, ça presse, parce que Trudeau est en train de perdre des votes. Pas à cause d'un cas de corruption impliquant SNC-Lavalin, à cause d'un clair manque de leadership. Et ça, le leadership, là, ça s'enseigne pas, ça s'apprend pas, ça s'exerce, comprends-tu? Puis quand t'es boss, ben, tu vis avec. Puis c'est pas toujours drôle d'être boss en passant. Mais oui, c'est facile, il est boss. Attention, là. Le boss, c'est celui qui prend les mauvaises décisions. C'est-à-dire les décisions négatives. C'est lui qui prend les décisions qui vont avoir des conséquences. C'est lui qui mange des claques sur la gueule quand il prend ses décisions. Et les gens disent, regarde aller mon leader. Le père de Justin Trudeau, lui-même en a fait la comparaison. Lui, il niaisait pas avec la porte. Moi, c'était mes débuts de journaliste à Ottawa, là. Lui, il niaisait pas avec la POC, comprends-tu? Je te garantis que Wilson Raybould aurait été dehors avant même, comprends-tu, le remaniement ministériel. Il l'aurait sacré à la POC, puis elle aurait dit, c'est parce que gna gna gna, puis on voulait interférer, puis le père, il aurait dit, non, monsieur, c'est parce qu'on veut appliquer un accord de réparation qui est reconnu mondialement, qui va rapporter plus à l'État, puis qui va nous donner une poignée plus solide pour les contrôler, puis que ça arrive plus.
Mais au travers
de ça,
c'est
dur à comprendre.
Au travers de ça, la chance de Trudeau, c'est que les conservateurs ont pas l'air d'être fort là. Ils ont rien trouvé de plus intelligent au cours des dernières heures que de faire en sorte que Pierre Poilievre fasse un discours qui dure quoi 40 heures.
Ça a pas de
il a décidé d'occuper tout le temps de parole qu'il avait le droit d'occuper. Donc ça va faire un discours fleuve qui dure une quarantaine d'heures.
Ouais, mais je veux te dire une affaire. Il y avait Lyndon B. Johnson, l'ancien président américain, avait des citations qui sont restées célèbres. Il y en a une que je vais essayer de traduire, mais qui en anglais dit. Non, je la répéterai pas, celle-là est trop crottée. Mais je veux dire, en bout de ligne, là, où est-ce qu'on va, là, avec ça, là? Tu regardes Trudeau, là. C'est vrai que les conservateurs montent pas. Et je vais la donner la citation. Do not interfere with the enemy when he is in the process of self-destruction.
Okay.
Ne va pas te mêler des affaires de ton ennemi quand il est en train de s'autodétruire.
C'est ça.
Là, c'est là que les conservateurs font des fous d'eux-mêmes. Parce qu'il y a un chiffre que je voudrais mettre sur la place publique que les gens s'en souviennent. Le taux d'approbation du leadership de Justin Trudeau est inférieur à celui de Donald Trump, OK? Alors que, ben oui,
le taux d'approbation de Justin Trudeau,
de son leadership, qui ferait le meilleur premier ministre, c'est plus bas que Donald Trump. Alors, il y a une vulnérabilité chez les libéraux qui était incroyable. Et moi,
les conservateurs n'ont pas l'air d'être capables d'en profiter. Andrew Scheer
ben,
a l'air d'être perpétuellement souriant. Puis leur arme nucléaire, c'est Poilievre qui pérore tout seul pendant 24 heures.
Ils en profitent par défaut. Pas parce qu'ils sont habiles avec le dossier qu'ils ont entre les mains. Ils en profitent par défaut parce que Trudeau s'auto-détruit sur la place publique. C'est très, extrêmement difficile à comprendre pourquoi il agit ainsi. Je veux dire, les conservateurs regardent le portrait comme il se dessine. L'élection qui s'en vient, après tout, c'est pas bien loin, c'est au mois d'octobre. Alors, tu regardes les conservateurs au Québec. Ils ont une bonne base dans la région de Québec. Ailleurs, ça lève pas beaucoup. Mais les libéraux ont un besoin vital du Québec pour gagner une majorité la prochaine fois. Et que se passe-t-il au Québec à l'heure actuelle? Les derniers sondages, tu regardes l'agrégateur, Québec 125, tout ça. Le Bloc québécois fait des gains constants. Le Bloc québécois, ouais, en ayant changé de chef, en ayant trouvé un gars, Yves François Blanchette, qui est montrable et tout, ramasse les votes de gens qui ne savent plus où aller.
Aucune alors, de ses réponses.
Aucune de ses réponses. Alors, tu vas te retrouver avec quoi? Trudeau ne pourra pas faire de gains en Ontario. Il n'en fera certainement pas dans l'Ouest. Il va garder la mainmise sur les maritimes, mais c'est pas assez, c'est 27-28 comtés. Puis il va arriver au Québec, puis il va faire patate complètement. Et ce qui le guette, Trudeau, à l'heure actuelle, c'est une révolte littéralement contre lui. Là, ils sont fâchés, son caucus, contre les deux madames. Mais donne-y encore une autre semaine, s'il ne met pas un peu d'ordre dans cette affaire-là, ce que tu vas avoir, c'est qu'ils vont se mettre ouvertement à défier leur chef.
Qui a remplacé, oui, Gérald Botts? Dans son
personne,
entourage?
Personne à l'heure actuelle. Personne. Et ça aussi, c'est probablement un problème. Ouais. Et surtout, Myriam, t'as dû le remarquer. Depuis que cette affaire-là a éclaté, quand on voit Trudeau, il a plus cet air de superbe qu'il avait avant. Il a plus l'air aussi à l'aise avec lui-même qu'il en avait l'air avant. Cette affaire-là nous donne parfois l'image, tu sais, le vieux cliché, le chevreuil avec les lumières de voiture en plein les yeux. Il y a de l'air d'un gars qui sait plus trop où il s'en va. Il y a pas grand-chose à dire sur quoi que ce soit. Et tout ça se produit au moment où la taxe carbone qu'on paye au Québec depuis longtemps commence à s'appliquer depuis hier dans quatre provinces, dont l'Ontario. Là, tu sais, c'est comme... Là, il est en train de créer la tempête parfaite, des taxes par-dessus des taxes, plus de leadership, la chicane dans son caucus, l'anarchie au pouvoir, le chaos. Il va disparaître de la carte s'il continue. Et Scheer, il serait mieux de dire à Poilievre, là, prends un bon café puis pense à d'autres choses. Là. Laisse les libéraux s'autodétruire. Ça va bien, leur affaire. Ça va bien. Ils sont en train de se faire harakiri. Laisse-la aller. Les gouvernements, dit-on, très souvent, sont rarement élus, ils sont battus. Les gens votent rarement pour quelqu'un, exact. Ils votent contre quelqu'un. Et là, Trudeau est en train de se bâtir quelque chose qu'il ne pourra pas surmonter.
Il y a deux étapes d'habitude. La première où les gens disent aucune de ses réponses, puis la deuxième où ils disent, garde, je vais me pincer le nez, puis je vais voter pour celui qui peut le battre. D'après moi, Trudeau n'a pas encore franchi cette étape-là. Les gens ne sont pas encore prêts massivement à se pincer le nez puis à voter pour les conservateurs.
Non, mais à un moment donné, ça va
finir par arriver. Actuellement, les gens ne cherchent aucune de ces réponses.
Ben, les gens, là, ils sont assis devant leur téléviseur le soir puis ils regardent les news, là, tu sais, comme nous autres, un peu de nouvelles, tout ça. Ben, à chaque fois qu'ils voient Trudeau, ils disent « Mais qu'est-ce qu'il fait là, le petit garçon en culotte courte? C'est quoi cette affaire-là? » Puis là, tu vois les deux madames, Philpott puis Wilson Rainbow, qui ont l'air des durs de Dieu et qui se déguisent en espèce de martyrs de la tyrannie.
Mais c'est quoi leur plan, eux autres? C'est quoi leur plan?
Ça, je le sais pas. Ça, pour moi, là, c'est...
T'as-tu une des deux qui s'imagine qu'elle va devenir première ministre?
Je suis pas sûr qu'ils pensent pas à ça, moi. Je suis pas sûr qu'ils pensent pas à ça. Évidemment, ils ont aucune chance. Mais pas sûr qu'ils pensent pas à ça. Hey, moi, Madame Intégrité, Madame au-dessus de la mêlée, qui n'a pas voulu aller excuser des crimes commis. Il y a personne qui a demandé d'excuser SNC-Lavalin. Ça fait pas partie du débat pantoute.
Non, ils reconnaissent.
Le débat, c'est veux-tu me donner 300 millions, t'engager pendant 10 ans à ce que je puisse mettre mon nez dans tes livres pour être sûr que tu fais plus de conneries? Comprends-tu? Puis qu'on règle cela, puis en même temps, on ne retire pas les accusations, on les suspend. Quand même, c'est à peu près temps qu'on se réveille.
Merci, Luc Lavoie.
Myriam, salut. On s'en porte toujours. Salut.
À demain. Bye. Il est 11h58. On semble avoir un problème. Je ne sais pas si c'est l'ampleur de vos réactions qui a fait jamais notre 25226, nos textos. Mais le résultat, c'est qu'on ne reçoit plus de textos depuis quelques minutes. Et je vous suggère donc temporairement là, d'aller sur studio@fm93.com, c'est-à-dire par courriel.
Ouais, j'ai beaucoup de réactions par Twitter, par Facebook, mais au 25226, c'est HS depuis à peu près 20 minutes. Donc, depuis qu'on a fait l'annonce que la collaboration hebdomadaire avec Catherine Dorion et Sylvain Bouchard était terminée. Donc, c'est effectif maintenant. Je lis vos commentaires sur les réseaux sociaux, mais au texto, malheureusement, ça passe pas. Passez vraiment par le courriel pour les prochaines minutes.
Il est 11h58.